Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde, nous sommes le jeudi 11 avril. Aujourd'hui, il y aura de l'astronomie, on va parler d'eau encore, de l'eau, que d'eau. On va parler de taxer aussi, de propositions pour récupérer de l'argent public avec des taxes proposées par ATTAC. On va parler de déforestation au Brésil et des manias du textile dans le viseur. Et puis aussi des petites infos de ce qui s'est passé hier à 7 avec cette explosion incendie dans une usine classée Seveso. Et aussi, on va parler un petit peu d'un article que j'ai trouvé dans le journal Objectif Gare, que vous pouvez trouver en ligne, et qui revient sur la situation des soins psychiatriques et psychologiques du côté du Vigan, à savoir la disparition du CMPEA, le Centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents du Vigan, qui n'est plus en activité depuis l'été 2023. C'est celui qu'on appelait le MAS Cavaillac, et c'est le sénateur Laurent Burgois qui interpelle le gouvernement à ce sujet. Le sénateur a donc en effet attiré l'attention du gouvernement sur les conséquences désastreuses, selon lui, de la disparition donc au Vigan de ce centre médico-psychologique pour enfants et adolescents, CMPEA pour les intimes, en demandant au gouvernement qu'il agisse pour son maintien. Depuis l'été dernier, donc, ce centre qui était géré par l'association du MAS Cavaillac est une structure de soins pivot qui porte une mission de service public pour tout le secteur nord-ouest du Gard, donc pour les gens de Ganges et aussi de Saint-Hippolyte-du-Fort. En effet, la fermeture donc, de ce centre qui a été due au départ du médecin psychiatre, qui était annoncé comme temporaire, pose des difficultés de prise en charge pour toute la population qui a besoin de soins dans cette matière. Et on évalue environ 500 enfants et adolescents concernés par l'absence maintenant de prise en charge correcte. À ce jour, un médecin interviendrait de manière ponctuelle pour assurer la continuité du suivi des patients, mais aucun nouveau patient ne peut être accueilli. En effet, dans le Gard, le redécoupage de la psychiatrie est en cours d'arbitrage à l'Agence régionale de santé. Pour l'instant, c'est ALES qui est le centre de référence, donc c'est pas à côté. Selon ces nouvelles orientations, l'ARS tendrait à confier la prise en charge de ce centre à l'hôpital d'Uzès, au détriment de l'association du MAS Cavaillac, explique le sénateur. Pour lui, donc, aucun médecin d'Uzès n'accepte aujourd'hui de venir au Vigan, ni d'ailleurs que ce soit à Ganges ou à Saint-Hippolyte-du-Fort, ce qui fait craindre la disparition définitive du centre, puisque les mesures temporaires ne sont pas respectées. Il a donc tenté d'insister auprès de Sarah El-Hairi, la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. 500 enfants sont concernés, rappelle-t-il, et ont besoin de ce centre pour réaliser les bilans indispensables à la constitution de dossiers auprès de la MDPH. La santé mentale nécessitant une prise en charge de proximité, le maintien de ce centre au Vigan est fondamental, conclut l'élu. Donc, on espère que cette parole sera entendue et que des solutions seront proposées. On redescend un petit peu plus bas dans l'Hérault, à 7 plus exactement, où au moins une personne se retrouve en état d'urgence absolue hospitalisée après une explosion dans cette usine classée Seveso. Une explosion suivie d'un incendie s'est déroulée à 17h hier au sein de l'entreprise CEPOL, classée Seveso seuil bas, située dans la commune de 7. Ce sont les mots du communiqué de la préfecture. Selon elle, toujours, l'incendie est désormais maîtrisé et des prélèvements sont réalisés sur le site. Des vidéos ont circulé hier sur les réseaux sociaux montrant le panache de fumée impressionnant, une énorme fumée noire, qui heureusement, grâce au vent, s'est plutôt dirigée vers la mer et n'a pas donc asphyxier tous les habitants de Sète, même si, bien évidemment, la pollution reste une crainte de tous les riverains. Je vous le disais, au moins une personne qui était salariée de cette entreprise a été blessée gravement et se retrouve à La Péronie, à Montpellier, à l'hôpital. Mais au total, 20 personnes de l'entreprise ont été impliquées et 200 personnes évacuées à titre préventif. Cette explosion, elle a eu lieu dans un entrepôt de estérification. C'est un procédé chimique qui permet de fabriquer du carburant à partir de graines où étaient présents 300 mètres cubes de diester. On est donc sur une usine de fabrication de ce qu'on appelle les biocarburants. L'entreprise Cepol était à l'arrêt en situation de maintenance au moment de l'explosion et elle a immédiatement activé son plan particulier d'intervention, précise encore la préfecture. Cette usine, elle est située dans le port commercial de Sète et elle est donc spécialisée, je vous le disais, dans la production d'énergie décarbonée et de protéines végétales. Ça, c'est ce que rappelle France 3. Ça fait depuis 1989 que cette usine Cepol est dans la zone industrielle du port de Sète. Elle transforme du colza importé, du colza donc riche en tourteaux, des tourteaux pardon, de soja riches en protéines pour l'alimentation animale d'une part, mais aussi en huiles végétales qui serviront ensuite à la production de biocarburants. Cette usine appartient au groupe Avril. Le président de ce groupe Avril, c'est Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA. Vous savez, le fameux représentant à qui beaucoup de personnes reprochaient justement d'être bien bien éloigné de l'agriculture française, puisque visiblement son métier c'est plutôt d'importer du soja, peut-être brésilien ou d'ailleurs, pour faire des biocarburants. Et l'autre problème, c'est que cette... La marque Cepol, donc cette entreprise qui appartient au groupe Avril, c'est pas la première fois qu'on se retrouve avec des problèmes de sécurité. Déjà, si on reste sur cet incendie, donc je vous le disais, plusieurs vidéos circulent où on voit l'immense panache de fumée grise, un périmètre de sécurité a établi et des prélèvements effectués sur le site, dans l'air ou dans le sol, par précaution. Les résultats des premières mesures sont négatifs, rassurait la préfecture, qui rappelle le cycle panache s'est dirigé vers la mer. Et donc, selon le préfet, le centre opérationnel départemental, qui est un outil de gestion de crise en cas d'événement majeur, a été activé à cette occasion. Mais je vous le disais, donc d'autres explosions ont déjà eu lieu dans le passé. Tout d'abord à Dieppe, en Seine-Maritime, une usine Cepol aussi. Ça, c'était en 2018 et deux personnes sont décédées. Mais également en Seine-Maritime aussi, à Grand-Couronne, on est à côté de Rouen, ça c'était en 2020. Ça fait donc trois explosions en, on va dire, cinq ans. Le groupe Avril refuse de tirer les enseignements du drame du passé, communiqué de sa part l'inspecteur du travail et représentant CGT à Rouen, Gérald Lecor. Il fait un lien entre le recours à la sous-traitance de cette entreprise et les problèmes de sécurité qui semblent donc récurrents, voire systémique même, diront certains. C'est dans le journal L'Humanité, d'ailleurs, qu'on élargit un petit peu la focale sur les problèmes de ce groupe et également le problème des tous les sites qui sont classés Céveso sur le territoire français. Au mois de février dernier, la Cour des comptes dénonçait par exemple les insuffisances du contrôle de l'État dans la prévention et le suivi des accidents industriels à risque. En 2021, ainsi, le nombre de sites industriels qui étaient considérés comme les plus risqués pour la santé ou l'environnement en France et donc soumis à un régime d'autorisation administrative s'élevait au nombre de 20 848, près de 21 000 sites classés dangereux. Et dans ces presque 21 000, 1314 relèvent de ce qu'on appelle la directive Céveso. Céveso, c'est ce qui s'applique aux sites qui présentent le plus de risques, indique le rapport. Et après, on peut être classé différemment selon le niveau de dangerosité de Céveso. Donc, je rappelle que celle de Sète était en niveau bas. Et dans ce rapport, donc toujours de la Cour des comptes, on recensait 739 accidents industriels entre 2010 et 2020 sur des sites qui sont classés Céveso. Ces accidents ont pu avoir pour certains des conséquences dramatiques. On se rappelle de celui de l'usine chimique AZF à Toulouse. C'était le 21 septembre 2001, avec 31 morts et 2500 blessés, plus les très nombreux dégâts sur les habitations alentours. Ou bien encore l'explosion de la raffinerie de Fézin dans le Rhône. Ça, c'était en 1966, avec 18 morts, 84 blessés. Mais les avancées en matière d'environnement ou de santé publique qui suivent ces accidents sont longues à prendre effet, souligne la Cour des comptes, comme peut en témoigner l'exemple plus récent de la catastrophe de Lubrizol. Cet incendie avait ravagé en 2019 les entrepôts, là aussi, aux côtés de la ville de Rouen. Et selon le collectif Lubrizol, Bolloré & Co, 9500 tonnes de produits chimiques. On part dans les colonnes de Bastamag, qui d'ailleurs reprend une dépêche de l'AFP et qui nous relate cette initiative menée par l'association ATTAC. ATTAC, face au plan de rigueur annoncé par le gouvernement, propose de trouver au moins 60 milliards d'euros à travers 6 mesures qui mettent bien évidemment à contribution les ultra-riches et les multinationales. C'est même le but de l'association ATTAC, c'est de taxer justement la finance. Une pétition a été lancée donc pour avancer cet argumentaire. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et le gouvernement ont en effet annoncé durcir leur politique de rigueur pour le plus grand nombre. Cela alors même qu'ils se refusent à taxer les ultra-riches et les super-profits, dénonce dans son communiqué l'association. Cette politique injuste et injustifiée va aggraver les crises sociales et climatiques, mais ce n'est pas une fatalité. Et ATTAC propose donc 6 mesures pour dégager 60 milliards d'argent public en imposant mieux les plus riches et les multinationales, plutôt que de faire des économies qui vont peser sur les services publics, les classes populaires et les classes moyennes. Première proposition, imposer l'ensemble des super-profits, avec une taxe qui, selon eux, inciterait mécaniquement les entreprises qui font des bénéfices exceptionnels à baisser leurs prix et à augmenter les salaires. Une taxe telle sur les super-profits de l'ensemble des secteurs aurait pu rapporter de 10 à 20 milliards d'euros pour 2022 et autant en 2023. Deuxième mesure, lutter contre l'évasion fiscale. Pour l'éradiquer, puisqu'elle est pratiquée par les plus grands groupes, l'association propose de mettre en place une taxation unitaire des multinationales de manière à ce qu'elle soit imposée dans les pays où elles réalisent leur activité. Vous savez que souvent, justement, c'est en faisant plusieurs filiales et en faisant transiter les fonds qu'on arrive à les faire les déclarer dans les pays qui sont les moins taxés. Une taxation unitaire permettrait ainsi de dégager 18 milliards d'euros de recettes supplémentaires. En 3, il propose de restaurer un véritable impôt sur la fortune, un ISF rénové pour ATTAC qui serait sur l'ensemble des actifs d'un contribuable, à savoir les actifs immobiliers, mobiliers et financiers. L'ancien ISF aurait pu par exemple dégager 4,5 milliards d'euros de plus que l'actuel impôt sur la fortune immobilière, qui lui ne rapporte que 1,8 milliard d'euros. Et si on élargit l'assiette avec les propositions d'ATTAC, cet impôt sur la fortune rénovée pourrait ramener 10 milliards d'euros en 2024. En quatrième idée, mieux imposer la transmission des gros patrimoines. Ils partent du constat que l'accumulation des richesses provient très fortement de l'héritage, avec une importance toujours plus grande d'ailleurs de cet héritage dans le patrimoine des plus riches. Une refonte des droits de donation et de succession pourrait donc ainsi dégager 5 à 10 milliards d'euros de plus que le système actuel. Quand même aujourd'hui déjà, les droits de donation et de succession, ça fait 18,5 milliards d'euros. Ça, ce sont des chiffres de 2022. En 5, il propose de supprimer les niches fiscales et sociales inutiles. L'association ATTAC veut passer en revue les niches pour supprimer les dispositifs dont le rapport coût-efficacité-effet pervers serait défavorable et propose aussi éventuellement de maintenir ou de réformer les dispositifs qui seraient justement évalués justes ou efficaces. Sur les près de 200 milliards d'euros de niches fiscales et sociales actuelles, il serait possible de dégager 15 à 20 milliards d'euros à court terme et encore plus à moyen ou long terme. Et enfin, dernière proposition, comme quoi des idées il y en a, c'était justement pour répondre un peu par taquinerie à Bruno Le Maire qui disait « donnez-moi des idées ». Donc en 6, il propose de rétablir une juste imposition des revenus financiers. C'est le cœur même, je vous le disais, de l'histoire de ATTAC. Il demande la suppression du prélèvement forfaitaire unique, le PFU, pour rétablir une progressivité d'imposition des revenus financiers, ce qui permettrait de dégager au moins 2 milliards d'euros de recettes en plus. Et en matière d'impôt sur le revenu, ils veulent prévoir aussi la création de nouvelles tranches d'imposition et un relèvement du taux le plus élevé à 50%. C'est un peu technique, je vous avoue que j'ai pas tout compris dans la dernière idée que je vous ai proposée, mais voilà. ATTAC, c'est leur dada, ils sont sur l'imposition des plus riches, et donc ils font des propositions concrètes. D'ailleurs, ces propositions ont été proposées au ministère de l'économie et des finances par une délégation de l'association qui s'y est rendue ce 8 avril. Et donc, ils étaient à Bercy, mais ils n'ont pas été reçus. L'association a donc lancé en ligne une pétition. Donc, vous pourrez retrouver cet argumentaire et, si vous le souhaitez, le signer. Elle s'appelle 60 milliards en taxant les plus riches. Maintenant, c'est possible. Et c'est donc à retrouver sur le site de l'association ATTAC, A-2-T-A-C.
Des nouvelles du monde.
Et puisqu'on parlait de grands groupes dans le textile, ce sont Zara et H&M qui sont visés dans un rapport par une ONG britannique pour leur participation à la déforestation illégale des forêts du Brésil. L'ONG est britannique, elle s'appelle Earthside, et elle accuse donc dans son rapport les deux grandes marques de fast fashion H&M et Zara d'être liées à des activités de déforestation illégale à grande échelle au Brésil, mais également d'accaparement de terres, de corruption et de violence dans des plantations de coton détenues par leurs sous-traitants. C'est grâce à des images satellites, des décisions de justice, des registres d'expédition de produits et d'enquêtes sous couverture que justement les enquêteurs de Earthside ont compilé et analysé toutes ces données qui ont été publiées aujourd'hui dans ce rapport qui s'intitule « Crimes de mode, les géants européens de la mode liés au coton sale du Brésil ». On dirait un titre de polar. Cette ONG dit avoir retracé le parcours de 816 000 tonnes de coton provenant de deux des plus grandes entreprises agro-industrielles du Brésil, à savoir SLC Agricola et le groupe Orita. Ce sont deux compagnies qui sont basées dans l'ouest de l'état de Bahia. Les familles brésiliennes qui possèdent ces exploitations ont d'ailleurs un lourd passif de procédures judiciaires, de condamnations pour corruption et de millions de dollars d'amende pour déforestation illégale, dénonce cette ONG. Elles exercent leurs activités dans une partie de la région du Cerrado, qui est une savane réputée pour la richesse de sa faune et de sa flore. C'est plus de 800 000 tonnes donc, de coton ont ensuite été collectées dans 8 usines textiles en Asie, où s'approvisionnent justement les deux géants de la fast fashion, Zara, qui est une entreprise espagnole, et H&M, qui est suédois. Tout ce coton a été certifié comme durable par l'organisation à but non lucratif Better Cotton, selon Earthside. Donc quand vous achetez des fringues avec écrit coton durable, vous n'imaginez pas forcément qu'elles aient été produites dans ces conditions au Brésil, et ensuite qu'elles soient passées d'ailleurs en Asie. Pour s'assurer que le coton provient d'une source éthique, les deux entreprises, donc Zara et H&M, s'appuient sur le coton fourni par des agriculteurs certifiés Better Cotton. Et ce système de certification du coton durable, c'est d'ailleurs le plus connu au monde, mais il a de profondes lacunes, souligne donc le rapport de Earthside. C'est ça qui est montré du doigt aussi en filigrane de cette affaire. Ce label Better Cotton a expliqué à l'ONG Earthside d'ailleurs qu'il avait lui-même confié à un auditeur indépendant le soin d'effectuer les visites de vérification renforcées à la suite du rapport de l'ONG. Ah bah ouais, Moret, si tu mets des labels mais que tu vas pas voir toi-même sur place, forcément, c'est facile de gruger. Nous prenons très au sérieux les accusations contre Better Cotton, qui interdit strictement dans son cahier des charges des pratiques comme l'usurpation des terres et déforestation. C'est ce qu'ont réagi d'ailleurs la maison mère de Zara auprès de l'AFP. Facile. Et cette maison mère qui s'appelle Inditex demande le plus rapidement possible les résultats de l'enquête indépendante. Les conclusions du rapport de Earthside sont très préoccupantes et nous les prenons très au sérieux, a indiqué de son côté H&M aussi à l'AFP. Ce groupe H&M a souligné avoir été l'un des premiers à passer à un coton 100% bio, recyclé ou approvisionné de manière durable et à suivre les conclusions de l'enquête en dialogue étroit avec Better Cotton. À la mi-mars, les États membres du Conseil européen ont d'un autre côté validé une législation qui crée un devoir de vigilance imposant aux entreprises de l'Union européenne des obligations pour protéger l'environnement et les droits humains dans leur chaîne de production à l'échelle mondiale. Voilà, c'est un article qui a été rapporté sur Mediapart. On y voit qu'entre commerce éthique et industrie, il y a des choses incompatibles visiblement. On va parler un petit peu de l'eau maintenant. Tout d'abord à Toulouse, où on vient d'apprendre que le prix du mètre cube d'eau potable va coûter 42% plus cher pour la période qui va de juin à octobre et 30% moins cher le reste de l'année. Ça sera la première métropole de France à mettre en place une telle mesure. Toulouse explique donc cette décision par la nécessité de faire des économies d'eau face au changement climatique, en la rendant donc beaucoup plus cher l'été et moins cher le reste de l'année. En effet, à Toulouse, c'est la Garonne qui est l'unique source d'eau potable et la métropole a donc décidé d'augmenter le tarif de l'eau pendant ces 5 mois où l'eau est plus rare dans le fleuve. La métropole estime que ça ne pénalisera pas les ménages qui ne consomment pas plus l'été. Les mois qui sont majorés seront compensés par les 7 mois de baisse du prix de l'eau, écrit-elle, donc pour tous ceux qui vivent là à l'année. La décision de ce président d'hiver droite, du président pardon, d'hiver droite de la métropole de Toulouse fait débat. Le groupe d'opposition de gauche estime que les kits d'économie d'eau pour équiper les ménages permettraient plutôt 25 à 30% d'économie d'eau, alors qu'avec cette mesure financière, ce sont 10% d'économies qui sont visées par la métropole. Nous ne sommes pas contre la tarification saisonnière. D'ailleurs, tenez à souligner Sophie Boubidi, qui est élue du groupe Métropole Écologiste Solidaire. Mais, dit-elle, nous voulons qu'elle soit accompagnée d'une tarification solidaire et environnementale. La tarification de l'eau potable en période de changement climatique et de risque de pénurie, donc, questionne de plus en plus dans d'autres métropoles comme Lyon, Montpellier, Dunkerque ou Libourne. Ou encore Muret en Haute-Garonne, c'est une tarification progressive de l'eau qui a été instaurée. Les premiers mètres cubes sont gratuits, hein, ceux qui sont nécessaires a priori à la vie quotidienne, et ensuite plus on consomme, plus on paye. Mais une enquête justement réalisée par Reporter, et que vous pourrez retrouver si vous allez trouver cet article en ligne en cliquant sur le lien, et bien ils ont fait une enquête là-dessus en montrant que le choix justement de la tarification progressive n'était pas non plus la solution à tous les problèmes.
C'était vraiment très intéressant.
Et puisqu'on parle d'eau, on va en Russie où d'exceptionnelles inondations touchent en ce moment l'Oural, la Volga et la Sibérie occidentale. Plus de 10 000 logements ont déjà été submergés par les eaux, entraînant des milliers d'évacuations. Un bilan est sans précédent depuis des décennies. Et ce, alors même que le pire reste à venir, puisque le pic des crues était attendu autour de hier et d'aujourd'hui. De l'autre côté de la frontière aussi, d'ailleurs, la montée des eaux angoisse, c'est au Kazakhstan que le président a déjà évoqué les pires inondations depuis 80 ans. Alors que l'armée a été déployée pour venir en aide aux plus de 76 000 habitants qui se retrouvent en péril, le chef de l'État du Kazakhstan a reconnu des lacunes dans la prévention de cette catastrophe. À l'origine de ces crues historiques, en effet, ne figurent pas seulement les intempéries. Une fonte des neiges express a également été déclenchée par la montée brusque des températures. Ces températures ont aussi entraîné la rupture des glaces hivernales qui recouvrent les cours d'eau. Voilà, si vous combinez tout ça, cette série de facteurs a en plus précipité la rupture de plusieurs digues supposées protéger des villes en Russie, ce qui amène donc à la catastrophe en cours. Et en France aussi, on s'inquiète de la disparition de certains logements à cause de l'eau, mais on est plutôt sur ce qu'on appelle le trait de mer, donc le bord du littoral. Et c'est l'équivalent d'un terrain de football en surface qui disparaît chaque semaine avec la progression des océans. Ça a été lancé le 4 avril par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Une alerte précédait la publication de cartes qui identifiaient justement les logements menacés par la montée des eaux, avec des plans et puis des cartes qui vous montrent ce que ça va donner en 2028, 2050 et 2100. Pareil, si vous allez dans les colonnes du média Reporter, vous trouverez en cliquant ces rapports et les départements concernés et tous les chiffres. Ces chiffres ont été élaborés par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA. Et on voit sur ces cartes que près de 20% des côtes françaises sont actuellement en recul. Ça fait environ 900 km de côte. D'ici 2028, plus d'un millier de bâtiments pourraient ainsi être touchés par le recul du trait de côte. On parle aussi évidemment de la France outre-mer, avec notamment la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, mais plus près de nous la Corse, la Côte d'Azur, le Pays Basque ou la Seine-Maritime, qui sont les principales zones impactées par cette montée du niveau des eaux. En revanche, les côtes occitanes, tout ce qui va de Montpellier à l'Espagne ou le Nord ou la Charente-Maritime, eux, échappent au pire visiblement. avec beaucoup moins de constructions qui sont en risque et peut-être liées aussi à des facteurs géologiques ou de construction locale. En tout cas, si on regarde l'horizon 2050, ça fait plus de 5000 logements et 1400 locaux d'activité qui sont concernés, pour une valeur totale estimée à 1,2 milliard d'euros, dans un scénario défavorable qui impliquerait la disparition complète des structures de défense côtière et l'inondation progressive de toutes les zones topographiquement basses. Donc si toutes les zones vraiment proches du niveau de la mer étaient inondées, ces chiffres pourraient grimper à près de 1,5 million de logements touchés d'ici l'année 2100. Le scénario 2100 illustre ainsi les possibles conséquences de l'inaction face aux effets du changement climatique, concluent les auteurs de cette étude. La localisation des dégâts est un petit peu différente. D'ailleurs, si on regarde 2100, puisque la Corse, la Côte d'Azur et les départements d'outre-mer ne constituent plus les zones les plus fortement impactées, mais c'est à l'inverse la Vendée, la Charente-Maritime, le Calvados, la Seine-Maritime, le Pas-de-Calais et le Nord qui devraient, eux, enregistrer les préjudices les plus importants. Et ça concernerait environ 20 000 logements.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Allez, on n'aura pas eu d'éclipse totale en Europe, mais par contre, une comète sera bientôt à voir, enfin, elle est déjà à voir dans le ciel, mais son pic sera le 21 avril et elle s'appelle la mer des dragons. Une comète de retour avec un spectacle céleste rare à ne pas manquer. Elle a été découverte en 1812 et on la surnomme mer des dragons. Elle fascine les astronomes amateurs et professionnels par sa taille imposante et ses phénomènes cycliques. Alors, une longue absence, puisque la dernière fois qu'on l'a vu, c'était il y a, je crois, 75 ans environ. Et elle est donc de retour dans le ciel de l'hémisphère nord. Cette comète est déjà visible depuis plusieurs semaines. Elle atteindra son point le plus brillant le 21 avril 2024. Et ensuite, il faudra attendre 2095 pour la revoir briller au-dessus de nos têtes. Alors, si on l'appelle Mer des Dragons, ce n'est pas en référence à la série Game of Thrones, puisqu'il ne l'avait pas encore vu, je pense, en 1812. C'est en référence à sa nature cyclo-volcanique, car en effet, cette comète expulse périodiquement le contenu de son noyau glacé dans l'espace, ce qui accroît son éclat. Et elle, donc, c'est une comète qui est composée de glace, de poussière et de roches, avec une tête couleur émeraude, qui résulte de la présence de molécules de carbone diatomique, et cela avec la lumière du soleil. En juillet 2023, d'ailleurs, une éruption sur cette comète a provoqué l'apparition de cornes, ce qui lui a donné le surnom de la comète du diable, et depuis, elle a connu plusieurs éruptions impressionnantes, qui sont à chaque fois caractérisées par des décharges de gaz et de poussière. Sa taille est assez imposante, hein, puisqu'elle fait à peu près la taille d'une ville, et elle figure ainsi parmi les 10 plus grosses comètes connues à ce jour. Son vrai nom, c'est 12P Ponce Brooks, et la queue de cette comète s'étend, elle, sur la petite taille d'environ 50 millions de kilomètres. Ça fait à peu près un tiers de la distance entre la Terre et le Soleil. Son périhélie, c'est donc le nom qu'on donne au moment où elle est plus proche du Soleil, ce sera ce 21 avril, et c'est ce qui fait qu'elle sera très brillante dans le ciel, puisqu'elle ne fait que refléter la lumière du Soleil. Cette comète, d'ailleurs, elle est également associée à ce qu'on appelle les Kappa Draconides, encore une histoire de dragon. Et ça, c'est une pluie annuelle de météores qui est active entre fin novembre et mi-décembre. En effet, puisque la comète les traverse et elle laisse des grains de poussière dans son sillage, elle contribue à cet impressionnant phénomène céleste. Si vous souhaitez observer cette fameuse comète 12P Ponce Brooks, le mieux, c'est d'aller vous mettre un peu loin de la pollution lumineuse. Avec un horizon, il faut regarder vers l'ouest ou le nord-ouest, un horizon assez dégagé. Je pense que du côté de l'Aigoual, par exemple, on devrait être pas mal. Son observation ne nécessite pas de matériel sophistiqué. Une simple paire de jumelles ou un petit télescope suffisent pour l'admirer dans le ciel nocturne. Et si vous arrivez à trouver Jupiter, ça pourra aussi vous aider à la retrouver. Voilà, vous tapez comète Mer des Dragons, vous trouverez des petites cartes qui vous expliquent entre quelles constellations la chercher. Et autour du 21 avril, ça sera donc le meilleur moment. Et ensuite, elle passera d'ailleurs visible aussi dans l'hémisphère sud, ce qui fait qu'à ce moment-là, le monde entier, les observateurs du monde entier pourront enfin l'observer.
Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr.
Encore vous?
Les survivants mourront de faim et de froid. Ils ont la peste et le choléra.
Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux.
On termine en musique avec une petite dédicace aux musiciens tchétchènes, puisque la Tchétchénie vient d'interdire la musique dont les rythmes seraient inférieurs à 80 BPM ou supérieurs à 116 BPM. Le BPM, ça veut dire le battement par minute. Donc ils souhaitent que la musique jouée dans leur pays reste entre 80 et 116, ce qui est un tempo assez tranquille. C'est le ministre de la Culture qui l'a annoncé. Il a justifié ça, que voilà, il fallait que les musiques s'adaptent à la mentalité et au rythme musical tchétchène, en ajoutant « Il est inadmissible d'emprunter la culture à d'autres peuples ». Voilà, les musiciens tchétchènes ont donc jusqu'au 1er juin pour changer la composition de leurs morceaux s'ils veulent pouvoir faire des concerts dans l'été. Et en dédicace donc à tous ces pauvres artistes en galère, on va s'écouter un morceau qui excède largement les 116 BPM. C'est Didier Rascal qui nous demande comment est-ce qu'il a fait pour rester si calme jusque-là. « How did I get so calm ?» C'est là-dessus qu'on se quitte. Restez calmes les amis malgré tout. Puis vous avez qu'à danser un peu aussi, ça fait du bien. Ça permet de se défouler. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. Vous êtes à l'écoute sur Radio Escapade. Et on vous conseille de monter un peu le son.
How did I get so calm? How did I get so calm and jiggy? How did I get so calm? How did I get so calm and brush my shoulders, fam, like it's no biggie? How did I get so calm? How did I get so calm and jiggy? How did I get so calm and brush my shoulders, fam, like it's no biggie? How did I get this drop, this gorgeous ting on deck and she's so pretty? How can I tell her that I don't eat kitty? She's gonna think I'm taking a mickey. How did I buy this car for 80 bucks? Now it's only 50 bucks. How did I get these window tints so black and the feds don't give me no ag? How do I flex so wicked and bad? How are these men so bitter and sad? How did I get my arms and pecs all toned up? I ain't got no abs.
No abs.
How did I get so patient? How did I get so flagrant? How did she get complacent? Now she can't find a replacement. No. How did my barber get my fade so clean and my top so curly? How could I be so far from burly? By a big man from early. How did I get so calm? How did I get so calm? How did I get so calm? How did I get so calm and jiggy? How did I get so calm? How did I get so calm? How did I get so calm and brush my shoulders, fam, like it's no biggie? How did I get so surty? How did I feel like 40 when I was 30? How did I get so bold and shirty? How am I just out here taking the birdies? How did I spend all day in the gram from early, praying and perving? How did I do F1 on the M-way swerving? Could've been curtain, should've been nervous. How did I keep myself composed? I suppose I was on my toes. Get that coke from out my nose. Any combo, stay away from those. More action, less complaining, naming, shaming, doing my brain in. Pagans praying my flame was fading. How did I pattern and keep maintaining? How did I get so patient? How did I get so amazing? How did I get so brazen? On top where, just face it. How did I get so firm and sturdy when it's all topsy-turvy? Could I be so far from burly, by a big man from early? How did I get so calm? How did I get so calm? How did I get so calm? How did I get so calm and jiggy? How did I get so calm? How did I get so calm? How did I get so calm and brush my shoulders, fam, like it's no biggie?
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.